Radio Larzac vous présente dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses. Une série de pastilles sonores pour découvrir le musée, ses métiers, son fonctionnement et ses actualités. Les élèves de CE1 de l'école Eugène Selle de Millau sont venus visiter l'exposition temporaire Autochtonie au musée de Millau et des Grands Causses. Les enfants sont accompagnés de Nina Boutet, médiatrice au musée.
Normalement, tout le monde doit pouvoir voir. Alors, on fait de la place. Normalement, tous les enfants peuvent trouver une petite place.
L'exposition est conçue comme un voyage au fil des époques représenté par les différentes collections mises à l'honneur dans l'exposition. La visite commence en effet par la paléontologie. Les enfants observent les fossiles retrouvés autour de Millau.
Ici, devant vous, vous avez quelques objets qui sont normalement dans la collection de la paléontologie. La paléontologie, c'est tout ce qui est en lien avec l'époque des dinosaures, les animaux qui vivaient à cette époque-là, les plantes, etc. C'est quand on étudie les temps qui sont très, très, très lointains. Qu'est-ce que vous connaissez sur cette époque-là ?
Tu reconnais des fossiles ?
Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des fossiles que tu connais ? C'est des fossiles de quoi ? Mm-hmm. Des fossiles d'animaux, de plantes, c'est quoi que vous voyez ?
Escargot.
Ah oui, est-ce que tout le monde le voit, ce fossile qui ressemble à un escargot ? Tu peux nous le montrer, s'il te plaît ?
Je n'ai pas les prénoms.
Ouais, super. Ici, tout le monde le voit ?
Oui.
Donc ça, c'est la coquille d'un animal, d'accord ? Qui est une coquille en forme de coquille d'escargot, qui était un animal qui vivait sous l'eau, qu'on appelle l'ammonite. Je vais vous montrer un petit dessin, regardez. Ça, c'est l'ammonite. Donc l'ammonite, elle a sa coquille, qui ressemble à celle de l'escargot. Et qu'est-ce qu'elle a, là ?
Comme la tête.
Il y a la tête
et
des tentacules. En fait, quand on voit le fossile ici, on retrouve que la coquille. Mais t'as raison, elle avait des tentacules, un peu comme les pieuvres, et elle vivait sous l'eau. Mais attendez, dites-moi quelque chose. Cette ammonite, elle a été trouvée ici, autour de Millau. Il y a de l'eau ici ? Elle vivait dans quoi ?
Dans l'eau.
Ah, ça veut dire quoi ?
Peut-être le vent avec l'eau l'a emportée.
Ah, alors c'est sûr que l'eau et les courants qu'il y a au fond de l'eau, ça peut l'avoir fait bouger. Mais en fait, on se rend compte qu'à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas les causses, il n'y avait pas les montagnes qu'on a autour de Millau ici. Il y avait un paysage avec la mer. C'est dur à imaginer. Vous arrivez à imaginer ça ? On oublie Millau, on oublie la ville. Il n'y avait pas les villes, il n'y avait pas les villages, il n'y avait pas encore les hommes, hein, d'accord ? Il n'y avait pas encore les plateaux, les causses qu'on voit aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque des dinosaures, ces causses-là, ils n'y étaient pas. Et à la place, il y avait une mer. Une mer qui était tropicale. D'accord ? Donc c'était une mer chaude dans laquelle il y avait des animaux qui vivaient, notamment cette ammonite.
Il y avait plusieurs fossiles, ils étaient beaux et ils étaient aussi intéressants à voir. On a vu des empreintes dans les cailloux, des empreintes de dinosaures.
Aussi, on avait vu des fossiles de dinosaures, ceux qui avaient des tentacules et la tête en dehors, comme des escargots.
Ensuite, c'est le moment de découvrir quelques objets de l'époque préhistorique.
Tous les objets qu'on voit depuis tout à l'heure, ils ont été trouvés dans la région, ça veut dire autour de Millau, d'accord ? Parce que les hommes préhistoriques, selon les endroits, selon les pays, ils n'ont pas vécu exactement au même moment. Donc tous les objets que vous voyez là, ils ont été retrouvés autour de Millau, soit dans des grottes, soit en extérieur sur des sites archéologiques. Qu'est-ce que vous voyez comme objet alors ? Toi, tu vois une colonne vertébrale, tout le monde la voit là-bas ?
Oui.
Un morceau de squelette ? Ok. Quoi d'autre ?
Des bracelets, des colliers.
Alors oui, là-bas, il y a des bijoux, exactement, avec des bracelets. Donc toute la colonne blanche ici, c'est des outils. Ok. Des bols, des vases. Vous les voyez ici ? Donc là, de la poterie. Ok.
Un crâne.
Un crâne, juste ici, vous le voyez.
On passe à quelques siècles plus tard, à l'époque gallo-romaine. Nina Boutet explique la fabrication des pots en céramique sigillée dont le site de la Grosfezinck, près de Millau, était un des plus grands et célèbres centres de production.
Les potiers gaulois et romains, ils fabriquaient ensemble des pots, d'accord, des vases. Et en fait, c'était des vases qui étaient ensuite amenés avec des charrettes ou des bateaux dans tout l'Empire romain. Sauf que s'ils avaient la même technique que les hommes préhistoriques de tout à l'heure à faire des pots en faisant les boudins d'argile, les colombins, c'était trop long. Donc il a fallu qu'ils inventent une technique pour pouvoir faire des vases plus rapidement. Ils ont utilisé, vous voyez au fond, les deux objets qui sont au fond, c'est des moules, comme des moules à gâteau. Et à l'intérieur de ces moules, ils viennent décorer avec des tampons, qu'on appelle des poinçons, sur lesquels il y a les motifs. Il y a les motifs, il y a les personnages. Vous les voyez là? Il peut avoir les formes de fleurs, il peut avoir des feuilles, des végétaux qui vont servir de décor. Ils viennent à l'intérieur de leur moule, décorer avec les tampons. Ils font sécher leur moule. Et quand le moule il est sec, vous les voyez, les deux moules du fond, ils vont pouvoir les utiliser pour faire des pots rapidement. Ils mettent une boule d'argile au centre. Ils le mettent sur un outil qu'on appelle le tour de potier. Vous connaissez le tour de potier? C'est comme une table ronde comme ça qui tourne. Et donc les Gaulois et les Romains, ils utilisaient déjà ces tours de potier qu'on utilise encore aujourd'hui pour faire de la poterie. Ils mettaient la boule au milieu dans leur moule et ils allaient faire le tour comme ça pour appliquer l'argile dans tout le moule. Ils laissaient sécher et après ils démoulaient comme un gâteau. Sauf que les décors qui étaient là sur les bords du moule, ils se retrouvent à l'extérieur de notre pot. C'était malin quand même comme technique. Et ils pouvaient utiliser le même moule pour faire plusieurs fois le même pot.
Dernier saut en avant dans le temps, on arrive au début du XXe siècle et presque à nos jours.
Après, on a un peu regardé le trésor d'Emma Calvé. C'était une robe en cuir.
Oui. Un cuir?
Non, un tissu bleu, un peu rouge, gris.
De toutes les couleurs.
Oui, de toutes les couleurs.
Un peu. Ce qui m'a plu le plus, c'était quand on a regardé les robes. Parce que je voudrais bien regarder le spectacle, mais comme j'étais pas née, je pouvais pas.
Et dans les robes, il y avait des diamants.
Cette robe, elle date d'il y a 100 ans.
Il y a moins.
Et celle-là, elle date d'il y a quelques années. On peut dire que c'est aujourd'hui. D'accord?
Sur la robe noire, on voit les gants en cuir qui est fait un peau d'animal.
Exactement. Cette robe-là, elle est accompagnée par des gants qui ont été fabriqués à Millau. Ok. Est-ce que c'est des robes qu'on porte tous les jours comme ça?
Non.
Mais à l'époque.
Ce serait pas très pratique. En fait, c'est une robe de spectacle. Et la dame qui portait cette robe verte, elle s'appelle Emma Calvé. Vous avez déjà entendu son nom?
Ah oui, je m'appelle Emma.
C'est qui Emma Calvé, vous savez?
C'est une dame.
Alors là, Emma Calvé, elle a vécu ici il y a 100 ans, d'accord? Et c'était une chanteuse qui faisait de l'opéra.
Ah oui, c'est vrai.
Et en fait, c'était sa robe de spectacle. C'est la robe qu'elle portait quand elle était sur scène.
Mais c'est la vraie ou ils l'ont refait?
Non, c'est la vraie. C'est la robe qu'Emma Calvé, elle a portée sur scène. Et c'était un petit peu comme du théâtre, d'accord? Elle chantait. Et vu que les spectateurs, ils étaient loin...
D'après toi?
Il fallait qu'on puisse la voir. D'où ces épaulettes-là en tissu, cette grande robe qui avec des grosses pierres pour qu'on puisse voir de loin. Et sur la robe noire, donc ça, c'est une robe qui a été fabriquée il y a quelques années, c'est la robe de Beyoncé. Vous connaissez Beyoncé, la chanteuse? C'est une chanteuse qui chante aujourd'hui. Et Beyoncé, elle, quand elle chante, voilà, enfin, c'est une robe qui a été fabriquée pour elle. Pour une tournée mondiale qu'elle a faite il n'y a pas très longtemps. Oui. Et celle-là, Beyoncé l'a portée. Et on a mis avec des gants noirs parce que Beyoncé, elle porte, ça lui arrive de porter des gants de Millau. Oui. C'est des gants qu'elle a portés, les gants noirs qui sont là.
À la fin de ce voyage dans le temps, plusieurs époques ont marqué les esprits des enfants. Ils et elles ont surtout apprécié le fait de voir de près des vestiges et des objets qui témoignent du passé. Et ainsi, il et elle ont pu toucher l'histoire du doigt.
Moi, j'ai trouvé que c'était trop bien, surtout la préhistoire.
Le sarco du Moyen Âge. Ça m'a beaucoup intéressée et aussi qu'il reste aussi quelques os dedans.
Il y avait les pots où il y avait des espèces d'étages avec du sable.
En fait, pour moi, c'est tout ce qui m'a plu. En fait, j'aime bien parce que c'est intéressant et je suis jamais venue ici du coup. on a beaucoup appris. En fait, on a appris beaucoup de choses à partir des dinosaures de la préhistoire. On a appris beaucoup de choses à par rapport de ça. Et bien, j'aime bien.
Ça m'a aussi intéressé les bijoux du passé.
Oui. Moi, ce qui m'a plus le plu, c'est quand on a dessiné, on a vu la gravure.
Et qu'est-ce que vous avez dessiné ?
Moi, j'ai dessiné un dinosaure.
Et moi, j'ai dessiné un aigle.
Ben, moi, c'était tout. Parce que j'ai jamais rencontré le passé. Et pour une fois que je le rencontre, ben, je suis content.
Pourquoi c'est important, d'après vous, de venir au musée ?
Pour nous faire comprendre et découvrir des choses.
Pour nous faire comprendre et découvrir des choses dans le passé qu'on n'avait pas connues. Quand on apprenait sur le passé, c'est comme s'il y avait une bulle qui m'aspirait et que j'allais dans le passé.
Moi, j'avais l'impression que les hommes préhistoriques, c'était vraiment des artistes parce qu'ils font bien les choses, les peaux, les bijoux.
C'est qu'au musée, on regarde, on observe.
On observe. Oui. On regarde les choses qui sont belles, qui brillent.
Et aussi, on apprend à faire des trucs au musée.
Pour observer et pour lire les choses qui sont écrites.
Pour apprendre comment on a fait il y a très très longtemps.
Si tout cela vous a donné envie, l'exposition Autochtonie, objets, pratiques et imaginaires des Grands Causses est encore visible gratuitement jusqu'au 4 janvier 2025. Rendez-vous sur mumig.fr pour connaître ses horaires d'ouverture. C'était, dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses, une série de pastilles sonores réalisées par Radio Larzac en partenariat avec le Mumig et le service culture de la ville de Millau. À retrouver en podcast sur radiolarzac.org.